La première.
Le samedi.
De 10h à 11h.
Dans quel monde on vit ?
Dans quel monde on vit ?
Pascal Claude.
Encore et toujours sur le chemin des possibles. Bonjour à vous et meilleurs vœux. Oui, en 2017, c'est là où nous allons continuer à vous embarquer sur le chemin des possibles. Et ça n'est pas mission impossible, nous vous l'avons déjà démontré. Nous n'avons donc pas fini de cheminer ensemble, cheminer pour sonder l'époque et raconter le monde qui vient avec comme point de départ l'actualité. L'actualité que nous allons laisser de côté pour démarrer l'année. Nous allons ce matin tourner nos regards vers l'avenir, vers demain et après-demain. Et si 2017 était l'année de la révolution planétaire ? Une révolution qui fait triompher l'altruisme, c'est le souhait de l'économiste et écrivain Jacques Attali. Il veut nous transmettre le courage d'agir. Jacques Attali est l'un de nos invités. Et ce matin aussi, sur le chemin des possibles, nous croiserons des poussières d'utopie. L'utopie qui a mauvaise presse en ce moment, comme le constate Thierry Paco. Il est philosophe de l'urbain et il a décidé d'écrire des lettres à Thomas More, l'auteur d'Utopia, livre publié il y a plus de 500 ans. L'utopiste Thierry Paco est avec nous ce samedi. Ah, les utopistes, souvent qualifiés avec un air moqueur de doux rêveurs, et pourtant rêver.
C'est déjà ça.
Je cultive le rêve. On a une espèce de désordre dans les rêves. En tout cas, c'est pas un scénario fluide. Un navigateur, il se prend quelques secondes dans sa journée pour s'effondrer un peu, pour s'effondrer vers le haut, pour avoir un moment de répit.
Rêver, c'est déjà ça.
Notre vie se base sur les rêves. Souvent, ces rêves sont des visions merveilleuses. Souvent, ce sont des mirages. Nous sommes, de ce point de vue, tous un peu fous.
Dans quel monde on vit ?
Sur la première.
Quelques mesures d'une chanson d'Alain Souchon et des mots du violoniste Yehudi Menuhin et du chanteur Dick Annegarn pour ouvrir le bal. Bonjour Thierry Paco.
Bonjour.
Bonne année.
Bonne année à vous.
Merci. Vous venez de publier Lettre à Thomas More sur son utopie et celle qui nous manque. Vous êtes, vous, un grand rêveur ?
Ah oui, je suis un rêveur. J'allais presque dire, je suis un double rêveur. Oui, il y a le rêveur de la nuit, pendant ce sommeil paradoxal. Et puis, il y a la rêverie blachelardienne que j'essaye de cultiver au moment où je sieste, par exemple, ou au moment où je réussis à m'abstraire du monde quelques instants. Pour Bachelard, dans l'intuition de l'instant, il explique que la rêverie, c'est justement une espèce de capacité à se mettre hors du temps. Et d'une certaine façon, je crois que l'utopie rejoint l'Uchronie dans une espèce d'exaltation d'un ailleurs.
Rêver, c'est déjà agir pour changer la société ?
Ah, absolument. On ne peut changer la société que si on a rêvé son changement.
Vous l'avez dit, vous aimez faire la sieste. Vous êtes d'ailleurs un siesteur militant, vous vous définissez ainsi. Vous défendez la sieste parce qu'elle est l'un des lieux de vie du rêve ?
Oui, et puis parce que pour l'instant, elle n'est pas encore contrôlée par un Big Brother quelconque, ni imposée par un techno-bureaucrate. Hein ? Qui considérerait que en faisant une sieste, on serait plus productif après. Ce qui est vrai. Mais moi, pour moi, on n'est pas plus productif. On a vécu un moment comme ça de pause qui recharge nos batteries affectives, nos batteries sensuelles, sexuelles. C'est une dimension physiologique et chronobiologique, la sieste. C'est pas simplement une mise à l'écart du monde d'un quart d'heure ou de 20 minutes.
Donc, en ces temps de bonnes résolutions, vous nous invitez à faire la sieste au quotidien ?
Voilà, siester pour réagir, pour combattre et pour inventer.
Ça n'est donc pas une activité de fainéant ?
Non, pas du tout. Non, la paresse est une qualité, à mon avis. Ce n'est pas bien que si ça a été à un moment donné un des 7 péchés capitaux. À dire vrai, au Moyen-Âge, la paresse s'appelait assédia. Ou assez dit en français. C'est-à-dire le fait pour un moine d'être un mauvais pratiquant. Alors, vous voyez, c'est un peu différent de l'image qu'on a de la paresse. Pour nous, c'est tout de suite Alexandre le Bienheureux, si on a une culture cédéphilique. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui glandouille. Mais oui, je pense qu'à un moment donné, il faut braconner aussi sur le temps.
Ouais, vous écrivez « La vie réclame de la vacance ».
Exactement. C'est ce qu'on est en train de faire, j'imagine. C'est que si on veut penser 2017 qui arrive maintenant, ben il nous faut justement être dans une sorte de vacance, c'est-à-dire de disponibilité à accueillir la surprise, l'inattendu, l'imprévisible.
Quelles sont les règles pour en terminer sur le dossier sieste? Quelles sont les règles d'une sieste réussie?
Alors la sieste réussie, ce n'est pas la sieste coquine. Sieste, elle est très très sérieuse finalement. C'est une sieste individuelle qui doit être dans la plus grande intensité du repos, c'est-à-dire d'une mise hors du jeu social pour mieux ensuite le réintégrer et à ce moment-là, évidemment, ne pas se laisser marcher sur les pieds.
Il y a une durée recommandée ?
Oui, je dirais 15-20 minutes maximum. Après, quand on sieste longuement, par exemple une bonne heure, on se réveille un peu comme quand on a trop bu avec une gueule de bois. Ce n'est pas bien ça, ce n'est pas une bonne sieste dans ce cas-là.
Et vous nous conseillez un endroit particulier ?
Ah, alors moi je siège généralement sur mon lit. Mais j'en connais qui ont un fauteuil, qui ont un banc, qui ont un coin du jardin ou un hamac. Voilà. Mais moi, généralement, c'est vraiment le lit. J'ai besoin d'être totalement étendu sur le dos. Et puis, à ce moment-là, je laisse venir à moi la sieste. Hein, et je dis toujours, on ne peut pas résister à cet appel délicieux.
Venons-en aux utopies, à vos lettres adressées à Thomas More, qui est mort en 1535, il a été décapité. Et voici les derniers mots de votre dernière lettre. « Thomas, tu nous manques, reviens ». Pourquoi vous manque-t-il et surtout pourquoi nous manque-t-il, Thierry Pacaud ?
Alors, il nous manque parce que, à dire vrai, c'est le Thomas More, auteur de l'utopie, qui nous manque. Ce n'est pas le chancelier, c'est-à-dire l'équivalent du Premier ministre d'Henri VIII, car son bilan n'est pas très très favorable. Il n'a pas fait grand-chose, il a même condamné des gens à mort, donc ça, c'est pas du tout dans ma conception philosophique. Et donc, du coup, c'est plutôt l'utopiste, celui qui imagine une autre société, moins inique, moins injuste, juste, avec beaucoup plus de culture, de l'empathie et de la singularité, contre ce qu'on appellerait aujourd'hui, mais le mot n'existait pas dans ce sens-là à son époque, le narcissisme dominant.
En quoi pourrait-il nous être utile s'il était encore en vie ?
Il nous serait utile parce qu'il nous dirait des choses fortes qu'on n'ose pas entendre, comme par exemple, la société est injuste parce qu'il y a la propriété privée et parce qu'il y a la monnaie. Donc lui, dans l'utopie, dans son île d'utopia, ces deux éléments-là ont totalement disparu. Il ne peut pas imaginer, par exemple, un revenu commun pour chacun, universel pour chacun d'entre nous, puisqu'il n'y a pas de monnaie. C'est-à-dire qu'on entre dans une boutique, il y a des boutiques, des entrepôts, des coopératives, on entre, on prend ce dont on a besoin et on s'en va avec, on n'a pas à payer. Quoi. On mange le midi ou le soir dans des restaurants communautaires de quartier et on prend ce qu'on veut pour satisfaire ses envies, son appétit, et là encore on ne paye pas. Donc on est dans une rupture totale de société et je pense que même si c'est un jeu de l'esprit, il faut qu'on se mette dans cette rupture totale, car il ne s'agit pas de réformer notre société qui marche mal, mais c'est véritablement une alternative à inventer, c'est-à-dire d'autres pratiques politiques, sociétales, affectives, éducatives, etc., qu'il faut mettre en place.
Alors, vous l'annoncez à Thomas More, l'utopie n'a pas la cote aujourd'hui. Vous écrivez, je crois deviner pourquoi le genre littéraire que tu as initié avec ton utopie est en panne depuis plusieurs décennies. Et vous identifiez plusieurs raisons, il y en a au moins trois. La première, c'est qu'aujourd'hui, aucun ailleurs ne fait plus rêver.
Alors oui, c'est-à-dire que je me suis aperçu que Thomas More était un grand lecteur des quatre lettres d'Amerigo Vespucci, publié en 1507, mais aussi d'autres récits de voyage. Et j'ai constaté que tous les utopistes qui l'ont suivi par la suite, au XVIIe, au XVIIIe, surtout au XVIIIe siècle, mais aussi au XIXe, étaient soit des voyageurs, soit des gens très friands de récits de voyage. Et ils s'inspiraient de ces récits qui souvent, du reste, enjolivaient la relation que tel missionnaire, ou tel ambassadeur ou tel navigateur allait relater dans sa description du « bon sauvage », entre guillemets. Et donc, il y avait un ailleurs, il y avait quelque chose qu'on ne connaissait pas et qui pouvait nous surprendre et dont on pouvait plus ou moins s'inspirer. À la fin du XIXe siècle, la terre entière est cartographiée. Le moindre gué, la moindre vallée, le moindre glacier, la moindre rivière ou cours d'eau ont un nom. Et donc, il n'y a plus d'ailleurs. Et le tourisme de masse qui domine le 21e siècle commençant, eh bien, c'est un ici perpétuel et non plus un ailleurs. Les touristes, il suffit de les observer à Bruxelles ou à Paris, ils savent tout déjà avant d'être partis, avant d'être arrivés sur leur destination touristique, ils savent tout, ils ont tout lu, tout vu. Et puis quand ils arrivent, eh ben, ils sont encore dans leur ici, ils communiquent avec leur propre famille dans leur propre langue, ils s'envoient des selfies pour démontrer qu'ils sont bien arrivés Grand Place ou devant le Sacré-Cœur à Paris, mais ils sont en fait dans un perpétuel, je l'ai appelé comme ça, ici, c'est-à-dire qu'il y a un effacement de l'ailleurs. Mmh. Alors c'est pour ça que l'utopie s'arrête à la fin du XIXe siècle et que la science-fiction s'y substitue en inventant un ailleurs qui s'appelle Mars, qui s'appelle la Lune, qui s'appelle d'autres galaxies.
Mais donc, l'ici empêche l'utopie ?
Alors, l'ici empêche la capacité d'inventer à l'intérieur de l'ici un ailleurs, c'est-à-dire un nulle part, qui serait porteur, qui serait l'abri d'une expérimentation sociale.
Sur l'île d'Utopia, inventée par Thomas More, c'est 6 heures de travail par jour. Et vous écrivez, aujourd'hui, nul besoin d'être futurologue pour se persuader que la loi des 12 heures de travail par semaine sera votée d'ici une poignée d'années. Ça suffira pour avoir les moyens de remplir son frigo, Thierry Pacaud ?
Oui, parce que, comme vous l'avez vu, il y a une robotisation dont on a parlé dans la science-fiction il y a plus d'un siècle et demi, mais qui aujourd'hui devient une réalité, avec évidemment son cortège de dangers, qui serait la déqualification de l'humain, qui serait aussi la manipulation, etc. etc. Bon. Mais n'empêche que la plupart des tâches humaines pourraient être réalisées en très peu de temps. Alors ça, j'en suis persuadé. Par ailleurs, le travail salarié, aujourd'hui, provoque un chômage chronique. Et malheureusement...
Il va disparaître ?
Non. Ce qui va disparaître, c'est la distinction entre chômage et vie active, entre travail et loisirs. Je pense que tous ces éléments-là appartiennent à une autre époque. On entre dans une autre approche existentielle des temporalités qui feront qu'on a une écologie du temps, qui est encore balbutiante et qui va tout un coup, en plusieurs décennies, malheureusement, peut-être se généraliser.
Ça veut dire que le rythme métro-boulot-dodo va disparaître ?
Alors, d'abord, il faut essayer de désoccidentaliser notre esprit. Cette trilogie est fondamentalement occidentale. Elle touche évidemment aussi d'autres pays comme le Japon, mais qui sont des pays fortement industrialisés à l'ancienne, j'allais dire. Mais je pense qu'à l'échelle planétaire, il y a deux trilogies qui sont en train d'être secouées, pour voir même chahutées. C'est celle que vous avez mentionnée, donc les 3-8, d'une part. Et puis aussi, la tripartition de l'existence, enfance, formation, vie active et retraite. Je pense qu'il y a des interférences entre ces trois moments-là qu'on commence déjà. Je vois des étudiants qui prennent, alors ils ne le disent pas comme ça, mais après le bac ou après le première année d'université, ils prennent une année de cette fameuse vacance dont je parle tout à l'heure. C'est-à-dire qu'ils s'arrêtent une année, ils font autre chose, ils font un break, puis ils reprennent leurs études, et puis du coup, ils ont un peu mûri, ils ont une autre approche de leurs études, ils cherchent un autre type de boulot. Donc, je crois que cette modification des rythmes tout au long de la vie commence à prendre. Et c'est pour moi un très bon signe.
Pourquoi ?
Justement parce que ça montre que ce bien essentiel, unique, intime, qu'est notre rapport au temps, ne nous est plus dicté par les institutions et par l'organisation sociale dans son ensemble.
12 heures de travail par semaine dans les prochaines années, c'est ce que vous annoncez. Qu'allons-nous faire en dehors de ces heures de travail ? Il y aura plus de temps pour la sieste et pour les loisirs ?
Non, pas la sieste bien sûr, mais on pourra faire des émissions de radio.
Quelle bonne idée.
on pourra voyager et non plus touristiquer. On pourra aimer l'après-midi et pas seulement à heure fixe le soir, de telle heure à telle heure. On pourra cultiver son jardin au vrai sens du terme, parce que effectivement, vous l'avez laissé entendre tout à l'heure, il faut se nourrir. Et là, je pense que l'opposition ville-campagne qu'on a marquée comme étant une règle absolue dans le marbre de l'urbanisation planétaire est en train d'être sérieusement secoué, que chaque citadin, ou du moins une partie d'entre eux, vont aussi participer à des jardins collectifs, à des jardins partagés.
Vous racontez l'enseignement d'aujourd'hui également quand vous écrivez à Thomas More et vous lui dites ceci. Tu vois, l'école sert à normaliser bien plus qu'à exalter le bonheur de connaître.
Ben oui, alors là j'étais quand même un peu sidéré quand je lui ai écrit ça, parce que du coup, évidemment, j'ai lu et parfois relu ce qu'on appelle les pédagogies novatrices, nouvelles. On les appelle les pédagogies nouvelles. Elles sont plus que centenaires, il faut donc le savoir déjà.
Ouais.
Donc on les a mal évaluées, on les a mal popularisées et mal diffusées. Si je prends Ovide de Croly, qui est un médecin belge, si je prends Maria Montessori, qui est une médecin italienne, si je prends John Dewey, qui est un philosophe américain, si je prends Patrick Geddes, que j'aime beaucoup, Rudolf Steiner, ou plus tard Célestin Freinet, je vois que tous ces pédagogues ont en avant deux idées communes. La première, c'est le jeu comme activité principale pour permettre à l'enfant de grandir en lui-même. Et puis, l'autre aspect, qui pour moi est excessivement important, c'est d'être un chercheur d'or, comme je l'appelle, H-O-R-S. C'est-à-dire, l'enfant est un chercheur d'or, il est toujours en train de chercher en dehors de lui, en dehors de sa classe, en dehors de son école. Et pour ça, il faut qu'il explore le monde, d'où l'importance, évidemment, de pouvoir transformer.